Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du château.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, politiques.
On vit un temps fort du féminisme.
People are suffering. People are dying. How dare you?
On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger.
J'irai où je veux, je tracerai ma route.
La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi.
Bienvenue dans la
Boom.
Poudre.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Diaty Diallo.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est un constat hyper pesant en fait. Et du coup, comment ça l'allège et tout? Je sais pas en fait, mais peut-être que ouais, faire de l'art et en proposer, c'est peut-être quelque chose.
Je dois vous avouer un truc. Ça fait un moment maintenant que je n'allume plus la radio le matin, ou alors FIP, pour la musique douce. Moi qui étais autrefois une junkie de l'actualité, je n'ai plus aujourd'hui ni compte Twitter, X, ni la moindre consommation d'informations chaudes. J'ai des abonnements à des médias que j'aime et en qui j'ai confiance, dont je préfère lire les papiers d'analyse dans les moments calmes. Et quand je vois un sujet émerger sur la scène nationale ou mondiale, je préfère aller chercher des podcasts ou des vidéos en ligne qui prennent le temps d'expliquer les enjeux. Au-delà des bienfaits que ça me procure en termes de santé mentale, c'est un choix politique. Comprendre, c'est mieux que croire. Apprendre, c'est mieux que savoir. Regarder les événements avec du recul, ça aide. Il faut le recul historique pour contextualiser. Mais il faut aussi le recul de plusieurs mois, voire de plusieurs années, pour aller au-delà de l'émotion pure. Relire « Deux secondes d'air qui brûle », le premier roman de Diaty Diallo qui vient de paraître en poche, presque un an après sa parution et 4 mois après le meurtre de Naël, ça permet le recul. Le temps de digérer ce que cette énième violence policière a signifié pour la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi pour les personnes qui sont supposées la représenter. Avec Diaty Diallo, on a parlé de pyramides, de fantômes et de sorcières. Diaty Diallo, vous êtes écrivaine, vous avez aussi des talents de photographe, de musicienne. Vous avez publié l'année dernière votre premier roman, « Deux secondes d'air qui brûle », dont le titre « Incandescent, rageur et évanescent » reflète bien le contenu tant sur le fond que sur la forme. Ce titre, pourtant, devait être différent à la base. Il était question de sortir de la pyramide, parce que ce qui vous anime, ce qui traverse tout ce livre, c'est la notion d'espace public, comment on y stationne, comment on y circule, comment on est autorisé ou pas à l'occuper. Et ça me passionne aussi, donc on va en parler ensemble. Ce livre, « Deux secondes d'air qui brûle », Diaty Diallo, appartient désormais à la bibliographie officielle des livres et documentaires qui parlent de violences policières répertoriées avec soin par Télérama. On vous a beaucoup contacté ces derniers mois pour intervenir dans les médias, notamment après le meurtre de Naël, un jeune garçon de 17 ans, par un policier en juin dernier. Je le sais parce que vous l'avez raconté dans un texte que vous avez écrit pour le média Manifesto 21. Et dans cette tribune qui n'en est pas une, vous écrivez « Je n'ai pas envie d'écrire à la place de nos petits frères. Je n'en ai pas la légitimité. Et surtout, je n'ai pas le moindre désir de faire corps avec cet intellectualisme qui semble aller de pair avec cette profession sans salaire qu'est celle d'écrivaine. » Est-ce que c'est douloureux de se retrouver dans le fauteuil de celle qui est censée savoir, alors qu'au fond, on sait tous et toutes?
Ou on ne sait pas.
Ou on ne sait pas.
Franchement, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller observer toujours, d'aller regarder avec ses yeux, quoi, si on a la chance d'en avoir, ou d'écouter avec ses oreilles. Enfin, en tout cas, d'aller chercher des éléments pour témoigner d'une époque avec, enfin voilà, chacun sa subjectivité, sa singularité, mais je pense que c'est ça qui est important. C'est d'être en quête de savoir. Ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, je sais pas. Franchement, là, je saurais pas. Je sais plus vraiment.
Ouais, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup. Justement, vous dites le mot situer. Vous parlez souvent de ce savoir situer. C'est quelque chose que vous valorisez beaucoup d'ailleurs dans votre roman. C'est-à-dire que chaque individu, en fait, est porteur d'un savoir qui vient de sa vie, de son quotidien. Et j'ai l'impression que ce qui vous gêne, vous, c'est qu'on essaye de vous ériger en espèce d'experte qui saurait plus ou qui saurait mieux. Et vous refusez cette posture.
Oui, mais en fait, je pense qu'on... Enfin, je dis souvent « on » et je dis souvent « je passe de l'un à l'autre, hein. Pardon pour ça. Il y a du monde dans ma tête. Il y a un « on » communautaire, évidemment, et il y a un jeu intime. Mais quand je dis « on », c'est la communauté d'autrices non-blanches à laquelle j'appartiens. On s'y attend. Dès lors qu'on écrit des fictions ou des romans autobiographiques, ou enfin voilà, tout un. À partir du moment où on entre, et je mets énormément de guillemets à ce verbe-là, à partir du moment où on entre en littérature, on s'attend bien à être de toutes les manières quelque chose pour celles et ceux qui nous ont. Qui nous y ont fait rentrer.
Ouais, mais c'est marrant que vous parliez de génération, parce que c'est une question que je voulais vous poser plus tard, mais du coup, le moment est bien choisi, en fait. Vous avez fait un master de création littéraire à Paris 8, qu'on connaît assez bien dans l'émission, parce que voilà, j'ai reçu Sena Boussonko, qui a fait le même master, et puis aussi Fatima Das, il y a déjà un an ou deux. Et c'est vrai qu'on est tenté quand même de vous relier, même si évidemment on déteste le biais qui consiste, moi aussi je fais on, hein. le biais qui consiste à, voilà, à mettre dans le même sac, on a trois meufs non blanches qui écrivent des romans, ça y est, c'est les mêmes, c'est évidemment insupportable. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que il y a 20 ans, il y avait par exemple que Faïza Guen, que j'ai aussi reçu dans La Poudre, et qui s'est retrouvée avec d'un seul coup sur les épaules la charge de représenter la communauté tout entière. Pourtant, voilà, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais avec Fatima, Sénabou et d'autres, en fait, vous vous partagez un espace où vous avez chacune des façons de l'occuper qui sont en fait hyper spécifiques, où vous développez des identités qui sont vraiment les vôtres.
Ouais, bah, je pense que c'est clair qu'on nous a ouvert la voie. Faïza Guen, elle en parle hyper bien dans Nos Plumes, notamment le film de documentaire de Kera Mameri qui donne la parole à... des auteurs racisés de banlieue, pour aller vite, et qui disent la banlieue pour la plupart. Moi, je trouve qu'elle met, Faïza Guen, elle met en avant ce paradoxe, enfin ce, plutôt peut-être pas un paradoxe, mais cette impossibilité à être au bon endroit, de devoir être assignée représentante de qui, de quoi, on ne sait jamais trop vraiment. Et en même temps, d'avoir envie de fuir ce rôle-là, cette responsabilité-là qu'on n'a pas choisi. Et d'un autre côté, tout ce sentiment qui est aussi entre la trahison et le privilège, quoi. En même temps, se dire, tout le monde n'a pas une voix. Enfin, tout le monde a possiblement une voix, mais tout le monde... n'a pas la possibilité de parler en public. Est-ce que c'est une possibilité, alors qu'on a ce privilège-là, de ne pas prendre la parole pour autant? Donc voilà, un truc un peu comme ça qui est compliqué à trouver. Et encore, hein, moi je dis ça, j'ai écrit un livre, hein, vraiment, je crois que c'est le premier truc que... Enfin, un livre, c'est tout, quoi. C'est vraiment rien, en fait. On hérite, on a quand même un héritage entre nos mains. Enfin, je pense, voilà, la génération de Seynabou, Fatima et la mienne, de fait. Où du coup, peut-être que avec ces exemples sous les yeux, on se rend compte de l'importance aussi de faire corps ensemble, de parler, de communiquer, de se confier, de sortir ce qu'on a sur le cœur, etc. Et que il y a peut-être moins de solitude. Enfin, faudrait demander aux principales concernées, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de solitude qu'avant, parce qu'on est de plus en plus nombreuses, nombreuses, et on compte bien l'être de plus en plus les prochaines années. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi la différence, et que et qu'on lutte peut-être plus consciemment, ou je ne sais pas vraiment si consciemment c'est le bon terme, mais contre ces assignations, parce qu'on l'a vu se faire, en fait. Ouais. On a eu des exemples, donc on se dit, OK, y a eu beaucoup de souffrances déjà, comment on s'évite à nous-mêmes, aux unes, aux autres, aux uns, aux autres, de revivre, en fait, des schémas qui ont pourtant déjà existé, quoi. Comment on enraye, comment on met un sabot dans la machine, hein, en fait, concrètement.
Ouais. Je trouve ça intéressant que vous ayez dit nombreux, nombreuses, parce que, en fait, je vois pas beaucoup d'hommes. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins, enfin ne serait-ce que du master, le fameux master de Paris 8, les voix qui émergent, c'est des voix de femmes. Il y a beaucoup moins de jeunes garçons, entre guillemets, de banlieue qui sortent de la littérature, ou de la littérature qui marche aussi, qui est accueillie médiatiquement, parce que le point commun entre Fatima Das et vous, par exemple, c'est qu'il y a eu quand même une énorme répercussion médiatique, des sélections dans des prix littéraires, des invitations dans les grands médias institutionnels. Et je trouve que ça résonne avec le roman, où vous donnez la parole principalement à des garçons. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard si finalement... cette nouvelle génération, elle est surtout féminine?
Moi, je ne pense pas qu'elle soit spécialement féminine. Hein. Je pense que c'est... On nous préfère parce qu'on est plus inoffensive, en fait. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose... C'est complexe. Clairement, c'est complexe. Donc là, je vais m'atteler à un aspect du problème. Mais je pense clairement qu'on fait mieux en photo. Enfin, on rend mieux en photo. Clairement. Il me semble que c'est Assa Traoré qui en parlait vachement bien. J'ai peur de déformer ses propos, mais il me semble qu'elle disait que si à la fin de la journée il y avait autant de sœurs, de mères, qu'il y avait une telle présence féminine à la tête des comités de familles de victimes de violences policières, c'est parce que les présences dites féminines sont plus acceptables par la domination là. En vrai, c'est pour moi, c'est tout ça, c'est une question de validation. Je pense qu'il y a, il y a plein de personnes qui sont des hommes cis racisés qui écrivent, mais c'est juste que c'est pas les mêmes corps, en fait.
Ouais.
C'est pas les mêmes corps.
Ouais, je doutais pas du fait qu'ils écrivent, mais effectivement, oui, du fait qu'on leur accorde la même attention médiatique et la même autorisation à circuler dans ces espaces médiatiques, ça ressemble à ce qui se produit dans l'espace public en réalité.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, forcément là, tout ce que je dis, c'est un peu incomplet. Hein, j'en ai bien conscience, mais je me dis après, ce qui serait intéressant aussi pour compléter ça, mais là, j'ai pas forcément les clés, c'est d'observer après ce qui se dessine sur une carrière pour les gens qui en ont.
Ouais.
Sur la question de raciale, la question de genre, de voir aussi comment après, sur toute une carrière, comment ça se dessine. Mais en tout cas, oui, ce qu'on peut observer, c'est sur le premier roman, parce qu'après, il y a une attention particulière aussi dans l'économie du livre portée à ce geste un peu inaugural. Je sais pas vraiment pourquoi. Bah, je pense que c'est un peu, d'ailleurs, c'est très colonial. Je pense que c'est un truc très découverte. On découvre quelqu'un.
Ouais.
Voilà, il n'existait pas avant, maintenant il existe. Alors que des fois, ça fait genre 20 ans qu'on écrit, mais...
Ouais, mais
voilà, on a découvert quelqu'un, quoi. On a retiré le drap.
C'est intéressant, waouh.
Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un truc... voilà, peut-être que c'est ça, la passion premier roman. Mais est-ce qu'elle persiste avec le temps? Est-ce que ce regard, il va suivre toute une carrière, ou est-ce qu'il va s'arrêter Et ça, je pense que... on est beaucoup à pas être très dupes, hein. Enfin, vraiment là-dessus, on est là en mode bon, bah, on est très contente en l'occurrence de l'attention qui nous a été portée, mais on sait bien que la suite, elle va être compliquée. On sait bien qu'on va arriver avec des trucs qui vont intéresser personne probablement, quoi. Moi, franchement, je suis prête, hein. Je le dis, le prochain roman, je pense. Je sais pas de quoi il va parler, hein, mais il y a vraiment moyen qu'il intéresse personne, quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant comme remarque concernant le premier roman. Il y a mon cerveau qui a fait une petite boum. On verra avec le recul, on se donne rendez-vous dans 10 ans, puis on verra comment tout ceci a évolué. Et en parlant de recul, bah justement, dans La Poudre, on aime bien prendre du recul et observer les parcours. Donc vous, Diaty Diallo, vous avez grandi à Versailles, dans les Yvelines, dans un quartier populaire. Je précise, parce que Versailles, quand on en parle, on imagine un peu les ors du château. C'était comment de grandir à Versailles?
Moi, j'ai grandi à Versailles de 0 à 10 ans. 10 ans, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment une petite partie de l'enfance, en fait. Parce que l'enfance, je pense que ça dure quand même jusqu'à pas loin de 18 ans, en vrai. Enfin, selon la loi. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai à dire ça? Moi, je me considère comme une enfant des HLM, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est peut-être plus intéressant, je trouve. Est-ce que je vais rentrer en contradiction avec moi-même, là? Je sais pas. Si, en tout cas, je trouve que c'est une appellation intéressante parce qu'elle sort justement du registre quartier populaire, quartier politique de la ville, cité, banlieue, qui sont en fait des termes stigmatisants pour certains et incomplets aussi. Et puis surtout, ce qui cache des réalités extrêmement vastes. Je trouve que HLM, d'un coup, on a quelque chose qui est peut-être plus homogène, quoi. Le HLM, voilà, habitation à loyer modéré, on est sur un truc où...
C'est factuel.
Ouais, c'est factuel. Enfin, moi, je me sens dans cet immeuble, effectivement, on devait être à peu près... Enfin, il y avait vraiment une homogénéité, je pense, dans la classe sociale. On était beaucoup de personnes racisées, pas que, mais ouais, je pense en majorité. Voilà, de personnes nord-africaines, de personnes d'Afrique subsaharienne, de personnes de la Caraïbe francophone. Voilà, on était tout un tas de gens. Et puis, ouais, je ne sais pas trop quoi dire sur cette expérience. Bah, y a un truc qu'on a perdu en déménageant. On a déménagé après dans une zone de lotissement, on va dire. Donc avec des habitations qui alternent un peu l'immeuble et le pavillon. Et là, il y avait une forme de... Ouais, de... On sentait qu'on était plus du côté de la cellule familiale, quoi, comme petit milieu incarcéré.
Famille nucléaire.
Ouais, il y avait un côté comme ça, donc ça se parlait moins et tout. Mais alors que dans ce bâtiment-là, on se prêtait des oignons, quoi. On se prêtait des oignons et on... Enfin, voilà, on gardait les enfants les uns des autres et... Enfin, je dis ça, c'est comme si c'était vraiment... Enfin, c'est plus un regard tendre qu'une utopie feinte. Hein, c'est...
Non, mais il y a une circulation, j'imagine, ouais, tout simplement plus forte quand on est quand on habite proche, quoi. Ça paraît logique.
Oui,
fait,
c'est
ça.
Ça
rejoint aussi la réflexion sur l'espace public. Hein.
Ouais, bah oui, carrément. Ouais, il y a déjà une forme d'espace, en tout cas d'espace partagé, semi-public, semi-privé, semi-intime. C'est... L'espace de l'immeuble, il est hyper intéressant, de toute façon. Et j'avais hyper peur que... ça soit quelque chose de complètement perdu, mais je parlais à une amie qui me disait qu'en fait, elle a ça au Pré Saint-Gervais, dans son immeuble. Je me dis, ok, non, c'est une pratique qui continue d'exister, quoi, ce truc de se refiler des oignons. Ça continue de marcher, donc je me dis, c'est pas mal. Mais Enfin, ouais, c'est... L'habitat, c'est marrant, on en parlait hier avec, dans le lancement de La Déferlante. Il y avait toute une thématique, un talk sur la notion d'habiter, quoi. Bon, on pourrait en parler des heures, mais... Ouais, comme on habite seul avec les autres, où est-ce qu'on fait communauté, où est-ce qu'on fait politique aussi. Parce que je pense que l'espace partagé, c'est l'espace de rencontre. C'est là où on fait amitié, mais c'est là où aussi on fait politique. C'est là où on peut se connecter, résister ensemble, etc. Donc c'est important. Et on les a de moins en moins. Parce que, évidemment, c'est un agenda... je pense que pour le coup, c'est pas du tout ni anodin, ni...
Ouais, mais il y a plein d'endroits... En fait, c'était une question que je gardais aussi pour plus tard, mais il y a énormément d'endroits dans votre réflexion où je retrouve la réflexion de Geneviève Pruvost, qui est une penseuse écoféministe qui a écrit Le quotidien politique. Et on pourrait penser qu'elle est sur des thématiques qui sont très différentes des vôtres, parce qu'elle a été, elle, beaucoup dans des ZAD, rencontrer des gens qui ont choisi des habitats alternatifs, de vivre hyper proche de la nature, d'être complètement décroissant, etc., etc. Et en fait, dans vos discours, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent. Et elle parle beaucoup de ce concept de maisonnée, qu'elle envisage vraiment comme une espèce de clé, en fait, avant tout pour résoudre la crise environnementale. Mais évidemment aussi, c'est une clé pour résoudre la crise sociale. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans votre roman, là, cette espèce d'interface entre le privé et le public, elle est vachement souvent symbolisée. Les dialogues qu'il peut y avoir entre un de la bande de potes qui est chez lui, qui dit à ses potes dehors, les gars, il y a les flics là-bas, n'y allez pas, qui se retourne vers l'intérieur. Et c'est juste une phrase, mais c'est tellement bien décrit sous votre plume pour parler à quelqu'un de sa famille. Non, mais deux secondes, j'arrive, qui ensuite ferme la fenêtre. Donc, et je trouve qu'en fait, on sent votre passion et votre attention vraiment très soucieuse, en fait, à cette notion d'occupation, en fait, des lieux et à leur aspect fondamentalement, en fait, politique, quoi. Il y a rien d'intime, en fait, dans ces questions là, quoi.
Ouais, il y a La fameuse phrase intime et politique. J'en peux plus, je crois.
Moi non plus, je peux plus l'entendre. Pourtant, je l'ai dit 8000 fois, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que
elle est
très juste, en fait. Donc, on l'a beaucoup entendue, mais elle reste archi d'actualité. Enfin, c'est une phrase qui accompagne aussi la fameuse libération de la parole, qui n'en est pas une, mais en tout cas, libération de l'écoute, peut-être. Ouais, je sais pas trop quoi dire de tout ça. Je pense que, enfin, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est de me dire, mais comment en fait tout ça, ça naît. Moi, c'est vraiment ça ma grande interrogation, c'est comment on, qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins sensible en fait à son environnement, aux circulations des corps. Enfin, qu'est-ce qui nous rend sensible en fait, de manière plus générale, quoi. Et j'avais une image là comme ça. En vous écoutant parler d'être dans le RER avec ma mère et d'être dans la partie aérienne du RER A, je suppose, et d'entendre ma mère me dire, enfin, elle me montrait comme ça les immeubles qui bordaient la voie ferrée en me disant j'adore regarder chez les gens. Mais j'étais vraiment petite et en fait, c'est une phrase qui m'est restée jusqu'à maintenant puisque je l'ai dit, mais je crois qu'elle est assez. Elle est assez inaugurale, en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça, un peu prophétique et tout. Parce que, ouais, j'adore regarder chez les gens. Alors, non pas évidemment comme une voyeuriste, mais plutôt, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, entre nous qui circulons comme ça d'un point A à un point B, bah, probablement pour rentrer chez nous. Je pense que ça devait être de ces moments où j'accompagnais ma mère au travail parce que bah, elle ne pouvait pas me faire garder. Et puis là, on rentre chez nous. Et puis sur le passage, on voit des gens déjà chez eux. Et en fait, vraiment, ce truc de se sentir appartenir à, en fait. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça dans sa phrase. J'adore regarder chez les gens, j'adore me sentir connectée, en fait, à toutes ces vies devant lesquelles on passe. Et il y a un côté un peu cosmique comme ça dans sa phrase que j'aime beaucoup. Oui, je crois que c'est ça, en fait. C'est peut-être une forme d'éducation au regard qui vient des parents, dans mon cas.
Oui, parce que vos parents, ils étaient tous les deux, je crois, assez artistes, quoi. Il y a quelque chose d'artistique, de créatif dans votre famille. Votre maman, si je ne me trompe pas, elle travaille dans un musée.
Ouais, elle travaille pour les musées. Après, elle n'a pas une profession artistique, mais elle travaille pour les musées, donc ce qui fait que...
À la proximité de l'art, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est marrant, c'est ce qui me fait avoir, je crois, un point dans le test de bourgeoisie des pinsons Charlot. Là.
Ah ouais.
Avez-vous fréquenté les musées? Je dis, bah oui, il s'avère que oui, mais pas pour. Enfin, j'ai pas spécifiquement hérité d'un patrimoine culturel. Mais j'ai eu cette chance-là, puisqu'elle travaillait dans les musées, mais pas du côté artistique.
Et puis, la musique aussi. Enfin, je crois que mon papa, il était chauffeur de taxi, où il est.
Oui, c'est ça.
Mais qu'il y a aussi une pratique de la musique, de la photo. Enfin, il y a quelque chose quand même dans votre enfance qui vibre déjà de cette sensibilité créative. Donc, peut-être qu'elle vient de là aussi, cette sensibilité dont vous cherchez la source.
Oui, bah ça c'est clair, hein, mais ça c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Ouais, moi je pense que j'ai conscientisé beaucoup de choses en écrivant et puis mais surtout en parlant de ce que j'ai écrit. Et en fait, bien sûr que de toute façon, on se fait pas tout seul. Hein. Et justement, j'ai dédicacé le livre à mes grands-parents de chaque côté. J'ai surtout connu plus une paire de grands-parents, quoi. J'ai eu plus l'occasion de fréquenter une paire de grands-parents que l'autre qui sont des personnes qui sont décédées il y a très longtemps. Et en fait, effectivement, quand je redécompose un peu, enfin, je veux dire, tout le monde a une pratique artistique dans ma famille, en fait, c'est marrant, mais pas forcément, voilà, c'est pas spécifiquement des pratiques que ces personnes ont cherché à développer comme un métier ou comme quelque chose de plus professionnel. C'est juste là, en fait, et je trouve ça assez beau. Il y a de l'écriture, il y a de la photo, il y a de la peinture, il y a de la musique. Moi, je pense à mon frère plus âgé, qui, lui, il fait tout un tas de trucs. Il a graffé, il a écrit de la musique, il a écrit... Quand on était petit, il écrivait des scénarios de films, il faisait de la BD, vraiment tout un tas de trucs comme ça. Et je me dis, ouais, c'est marrant, enfin, un peu touche à tout... Moi aussi, je suis un peu pareil, je fais de la photo, je fais plein de trucs.
C'est une photo de vous, d'ailleurs, qui est en couverture,
ouais,
du livre, hein, je crois.
Oui, oui, oui. Mmh. Oui, ouais, c'est une photo... ouais. Enfin, c'est pas une photo très travaillée, par ailleurs, mais... Ouais, enfin, c'est la photo...
Elle est très belle.
Ouais, bah en fait, c'est marrant, parce que c'est quand je l'ai vue, cette photo... Enfin, en fait, quand j'ai vu le moment, j'ai vu la photo et je m'étais dit que c'était la couverture du livre. Je me suis dit, ah, faut que je la prenne.
Parce en prenant la photo, vous, ouais, saviez que c'était la photo.
Ouais, là, je me suis dit, ouais, si un jour je sors le livre, là, j'avais pas encore d'éditeur à ce moment-là, je me suis dit, tiens, bah, ce sera la couverture du livre. Bon, voilà. Et où ça a marché.
Bah ouais. le pouvoir de la manifestation.
Oui, c'est ça.
Vous avez parlé un petit peu de vos aïeuls maliens à qui le livre il est en partie dédié. Et quand vous parlez d'elles et d'eux en interview, vous employez souvent le mot fantôme. Je trouve que c'est un mot assez fort, cette espèce de présence spectrale qui a l'air d'être sur votre épaule, notamment quand vous écrivez.
Ouais, bah, je pense qu'on est entouré de fantômes. Moi, j'adore la figure du fantôme. J'adore tout ce que ça charrie et à la fois tout ce que ça a de plus trivial, quoi, la représentation dessinée du fantôme. Vraiment, j'adore, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais le drap, les yeux découpés, c'est vraiment un truc qui me parle. J'adore Halloween, en fait, aussi. Hein, y a un truc comme ça, je pense. Puis la dissimulation, tout ça. Et je pense même, pour aller plus loin que le fantôme, je crois que je trouve ça très intéressant, le principe du masque aussi. Mais bon, ça nous emmène sur un autre aspect de la conversation. Mais la question du fantôme, qu'est-ce qui de qui on est habité, parce que ça, c'est vraiment malgré nous, quoi. C'est pas forcément des choses qu'on choisit, des êtres qu'on choisit, etc. Et puis, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qu'on n'avait pas connues qui étaient quand même en nous, quoi. Je crois qu'il y a vraiment ce truc un peu intra-utérin, mais notamment chez les personnes qui sont des descendantes de corps colonisés. Hein. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui se manifestent à travers nous. On n'a pas le choix, en fait. C'est vraiment... c'est ainsi, quoi, ces trucs qui ressortent, des traumas, hein, clairement, qui ressortent et qui font qu'on se dessine d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça fait partie des fantômes aussi. Quand on est une femme ou qu'on a été assignée femme à la naissance, il y a aussi tout un lot de fantômes qu'on charrie, qui sont pas forcément des personnes, mais qui sont des violences, etc. Donc vraiment, il y a ce... Et puis, qu'est-ce qui fait que... Là, en l'occurrence, ces personnes que j'ai... Il y a une personne que j'ai pas connue, une personne que j'ai très, très, très peu connue, que j'ai rencontrée une fois. C'est quand même des personnes qui sont à l'origine de nos identités. Sans eux, on n'est rien. Donc il y a quand même une lignée. Je pense que c'est aussi important... Peut-être aussi qu'il y a ce... C'est intéressant, cette question, en fait, parce que je me dis que peut-être qu'il y a un geste d'autodéfense populaire, d'autodéfense de classe populaire même, qui est là en mode, nous aussi, on a une lignée, OK. Ce truc de...
Ouais,
n'a peut-être pas de particules, mais... qui a peut-être un peu ce truc-là de se resituer dans
une généalogie.
Bien qu'en vérité, ça veuille tout dire et rien dire à la fois, parce que... C'est quoi appartenir à une famille? Moi, je suis vraiment très, très critique de la notion de famille. C'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Pour des raisons et d'autres. C'est pas évident de faire famille. Je trouve que c'est une notion hyper culpabilisante. On a choisi personne. C'est assez vaste aussi comme sujet. Mais c'est vraiment fait de rupture, de continuité. Il y a des grands moments de vide. Ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est pas forcément connecté avec ce qui va se passer à l'âge adulte. Le modèle nucléaire domine encore, donc machin. Enfin bref, c'est un espèce de fantôme aussi, d'un truc idéal, un peu utopique avec lequel on a grandi. Et quand on réalise qu'en fait, il n'y a aucune famille qui est fonctionnelle sur ce plan-là, il y a une espèce d'énorme déception, alors qu'en fait, ça devrait être une célébration. Mais, mais la société fait que. Donc, je pense que c'est... Ouais, j'ai un peu élucubré, mais...
Non, en fait, votre pensée me fascine. J'ai écouté plein d'interviews de vous et je me disais pareil. En fait, vous avez une pensée tellement dialectique. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous pensez toujours à la fois avec vous-même et contre vous-même et vous tenez le fil tout le temps. Vous avez vraiment le cerveau fait d'une façon super impressionnante, en fait. Et je pense que c'est probablement pour ça que vous êtes mis à écrire hyper tôt. Vous avez transition vers la question. Vers l'adolescence, vous teniez un Skyblog. Skyblog qui vient de disparaître. Ça a été vraiment une brisure pour les gens de nos générations, je crois. Qu'est-ce que vous écriviez dans ce blog quand vous aviez 15 ans?
J'écrivais des trucs... C'est un peu... Je saurais même pas résumer, parce qu'en fait, j'ai retrouvé la trace de ce Skyblog il n'y a pas longtemps... J'avais pour espoir de démarrer l'écriture d'un second roman, et puis en fait j'ai fini par plus du tout avoir le temps suffisant pour m'y consacrer. Mais j'avais commencé des recherches préalables comme ça, et je m'étais dit j'ai très très peu de photos. D'ailleurs, ça fait une bonne transition avec la question de la famille. J'ai peu de j'ai pas une enfance spécialement documentée, quoi. voire même, et ça je pense que ça concerne beaucoup de personnes, il y a une espèce de trou à l'adolescence quoi, où en fait on n'a pas envie de se faire photographier, enfin je pense qu'il y a tout un tas de raisons qui font que moi j'ai extrêmement peu de photos, de films, j'ai rien quoi. Et je trouvais ça trop triste, quoi. Je disais, mais oh, mais il y a plein de gens, ils ont des photos, moi j'ai pas de photos. Enfin bref, je faisais un peu l'enfant, quoi. Et puis je me suis dit, bon, bah, il y a quoi comme trace? Il y a sûrement d'autres traces. Et puis je me suis rendu compte, comme ça, en réfléchissant progressivement, que en fait, il y avait j'avais énormément de traces écrites, de témoignages écrits de ce que j'avais pu être à différents âges, en tout cas à partir de l'adolescence. Et plein d'archives sur Internet, en fait. Et ce qui est archi flippant aussi, ouais. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Genre, Internet n'oublie rien, parce que du coup, avec la disparition de Skyblog, il y a plein de gens qui étaient là, mais c'est trop triste, on va perdre nos archives.
C'est horrible.
En fait, Internet n'efface pas. Hein, donc, concrètement, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est d'une part, c'est donc mon Skyblog que j'ai effacé, mais il y a belle lurette, quoi, vraiment. Et les posts que j'avais effacés. Quasiment au même moment où je les avais écrits, parce que j'avais une écriture comme ça hyper compulsive où j'étais là en mode sur mon clavier, j'écrivais des trucs mais pas très jolis à lire, enfin, c'est vraiment piquant quoi, vraiment difficile à lire, et puis je les effaçais comme ça tout de suite et puis je réécrivais derrière et en fait et j'ai retrouvé les strates en fait de tous ces effacements.
Mais c'est fou, mais comment, enfin, vous avez pris un hacker, comment ça
Non, pas du tout. C'est assez simple. Hein. Il y a des sites comme ça qui permettent de retrouver les archives de certains sites et pas tous. J'ai pas pu retrouver MySpace. Je suis très triste. Parce que j'avais écrit aussi des articles
alors
sur
que
MySpace.
Pourtant, ma page MySpace, moi, il y a pas longtemps, j'ai réussi à la retrouver.
Bah moi, je crois que j'ai retrouvé la mienne, mais j'ai pas retrouvé les strates. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a plein de trucs. Ouais, trop dommage. Mais et celle de camarades aussi, parce que j'avais ça, c'est limite le plus important, c'est Skyblog, j'ai tout retrouvé, mais sachez-le hein, si vous m'écoutez, j'ai tous vos Skyblog clairement. Franchement, c'est un peu flippant, tous les Skyblog de mes potes du lycée, tout ça, je les ai tous retrouvés.
Ouais, mais c'est chouette de pouvoir les
retrouver. Ouais, et à la fois je me dis, ça pose quand même une petite question de consentement s'ils ont été effacés, mais voilà. Et du coup j'ai retrouvé comme ça des choses que j'avais vraiment effacées à 15 ans quoi, donc
mais c'est le même genre, pardon de vous interrompre, mais moi ça me passionne ces questions de qu'est-ce qu'on fait des archives et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, et le nombre de fois où on entend, j'aimerais bien avoir un exemple concret en tête, je me demande si c'est pas Sylvia Plath, de grandes autrices qui ont dit après ma mort brûler tous mes journaux intimes, et heureusement il y a une sœur, un mari, un parent qui dit bah non en fait on va pas les brûler, et en fait 50 ans après c'est de l'or en barre littéraire, et heureusement qu'on les a pas écoutés quoi. Donc voilà, la question du consentement est hyper importante, et en même temps de garder des traces aussi d'évocation littéraire en cours d'éclosion, c'est tellement passionnant pour l'histoire et pour le savoir quoi. Enfin c'est
bah surtout que là dans le cadre de Skyblog c'est encore un petit peu différent parce que c'était une écriture publique, et moi je m'en suis rendu compte justement encore une fois en défendant le livre, à quel point en fait c'était déjà un premier temps de l'écriture adressée en fait,
ouais.
De se dire, parce que c'est pas pareil d'écrire dans un journal qu'on referme
complètement,
dont on sait peut-être qu'un membre de la famille ou voilà peut être un peu irrespectueux clairement même complètement irrespectueux et lire derrière notre dos, mais à part ça voilà c'est
oui c'est vrai.
Et le Skyblog, c'est différent parce que c'est public.
Ouais.
Et on le sait. Et donc, même si on... Voilà, moi, j'avais 3 lecteurs au quotidien, grand max, dans les grands moments, quoi. Peut-être plus, en vérité, j'en saurais jamais rien. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est une écriture adressée, qu'il pouvait y avoir des gens du lycée qui... D'ailleurs, j'écrivais pour ça, en fait, d'une certaine manière. Il y avait un côté hyper...
Un début de vocation, quoi.
Moi, j'allais parler d'exhibitionnisme, clairement. j'allais plutôt aller là-dedans, parce que je pense qu'en vrai, c'est un peu ça. Enfin, exhibitionnisme, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand même, hein, je pense qu'il y a quelque chose quand même de... Je vais rendre public des choses qui n'ont pas nécessairement... Enfin, qui pourraient ne pas l'être. Clairement, je parlais de... Non, mais franchement, c'est tellement marrant à la fois. Je me suis pas reconnue. En fait, c'est pas du tout l'image que j'avais gardée de moi ado, et en fait, ça a été une expérience hyper flippante de relire tout ça. Vraiment, j'ai eu une espèce de mini dissociation, quoi, de me dire mais qui étais-je vraiment, vraiment, est-ce vraiment moi ? Enfin, c'est une expérience super troublante où J'avais l'impression comme ça d'être dans des injonctions au bonheur, alors que moi, pour moi, j'étais vraiment une ado complètement dépressive. J'ai écouté The Cure et Joy Division et Radiohead. Enfin, vraiment, genre, je saignais les albums et c'est tout ce que je savais faire, quoi. Et en faisant de la couture et... et en écrivant mes propres chansons, quoi. Et en fait, là, je découvrais une personne qui était là en mode « Mais vous allez être heureux !» Enfin, je... Un truc hyper bizarre, coloré, mais je pense que j'ai pas fini de faire le diagnostic de cette adolescente là. Mais où est-ce qu'elle était, qui elle était vraiment? Et il y avait ça, et je passais du coq à l'âne beaucoup, quoi. Je mettais des paroles de chansons, puis après je parlais de trucs. En fait, j'étais beaucoup dans l'évocation, mais en fait, en vrai, moi-même, je me souviens pas de tout ce que j'évoque. Mais il y a des choses où, en fait, j'étais beaucoup dans le langage crypté, quoi. Je parlais de trucs qui s'étaient passés au lycée, mais de manière complètement...
Une allusion, ouais, vous-même, vous savez.
Tortueuse, exactement. De toute façon, ceux qui savent sauront. Enfin, vraiment, ce truc-là. Et puis, en fait, j'ai plusieurs moments comme ça où méthodiquement, je raconte une journée avec une amie. Mais vraiment, quand je dis méthodiquement, c'est limite par tranche de demi-heure, quoi. Et ensuite, après, on est sur le quai du RER. Et là, il s'est passé ça. Et les portes sont ouvertes. Et puis là, on a vu un monsieur très marrant. Et voilà, quoi.
Ben ça, c'est un petit début de ce qu'on peut parfois trouver dans certains passages de secondaire qui brûlent, je trouve. Il y a parfois cet aspect assez technique, assez clinique, des gestes, des déplacements dans l'espace de vos personnages.
Oui, c'est marrant de voir les prémices d'un truc. Enfin, je sais pas si ça aurait pu ne rien donner, mais effectivement, je pense que, de toute façon, c'est... Enfin, moi, j'ai pas l'impression... Je sais pas si c'est une expérience commune à tout le monde, mais je pense... Peut-être pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir changé, en fait, beaucoup dans ma vie. J'ai l'impression que les lubies que j'ai pu avoir très tôt, en fait, c'est toujours à peu près les mêmes. J'ai toujours les mêmes goûts. Enfin, j'ai pas... J'ai l'impression d'avoir évolué, d'avoir affiné des tas de choses, notamment sur le plan politique, et d'avoir encore des tas et des tas et des tas de choses à affiner. Clairement, la route est longue. Ouais, vraiment. Mais ouais, en vrai, j'ai pas changé de ouf, quoi. Effectivement, ouais, quand on lit des trucs comme ça, c'est abominable, hein. Enfin, vraiment, j'insiste sur ce point. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des gens... Enfin, je me dis, des fois, on a tendance à dire « Ah, c'était déjà... » Non, là, c'est vraiment... C'est une écriture infâme. C'est horrible, quoi. Et c'est lourd et tout. Enfin, c'est... Surtout qu'il y a vraiment l'aspect visuel. C'est-à-dire que le fond de mon skyblog est noir et vraiment, chaque phrase est dans une couleur différente.
Mais c'était la mode,
fluo, voilà.
Tendance.
Ouais.
Diati Diallo, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue?
Alors, on m'a assignée femme et je suis une femme cis. C'est ça la question?
Ça peut être tout à fait cette réponse si elle vous suffit.
Je sais pas encore totalement ce que c'est. Hein. En vérité, moi, les questions, enfin le genre, c'est vraiment, ça m'intéresse énormément. Ça m'a beaucoup intéressée aussi dans l'écriture de mon livre, c'est quelque chose dont on me reparle hyper souvent puisque j'ai eu l'outrecuidance d'aller parler d'hommes dans mon livre. Après, je pense que c'est aussi toute une catégorie de personnes à qui, de toutes les manières, justement, on ne vient pas poser la question du genre. Hein. Je pense que, en fait, le genre, c'est complexe, mais que c'est comme si... comment dire ? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette réflexion, parce qu'elle est un peu complexe. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à ce que je voulais dire à la base, c'est... je me suis dit, comment, en fait, on écrit sur un autre genre, a priori, que le sien ? Et je me suis rendu compte que... En fait, la réponse a été peut-être même quasiment dans la question. C'est que, en fait, à partir du moment où on ne croit pas en la binarité de genre, ce qui est mon cas, en fait, et que son propre, on découvre que son propre genre est composé, en fait, de tout un tas de, enfin, il est, comment on appelle ça, un prisme, un spectre, comme un spectre lumineux,
oui,
quoi.
Ouais,
il y a quelque chose, voilà, qui oscille, qui se décompose en pas mal d'attributs qu'on peut, de caractères qu'on peut attribuer comme ça au masculin avec d'énormes guillemets et vice versa, et que du coup, en fait, moi, je suis surtout allée piocher en moi-même, en fait, me dire à un moment donné, et non pas pour me dire tiens, je vais dégager quelque chose de spécifiquement masculin, mais parce que justement, partant du principe que bien que j'ai été construite, hein, comme une femme, et que bien évidemment que du coup il y a avec toutes les problématiques que ça présuppose, qui sont bien réelles d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc d'un coup, je me suis dit, en fait, si c'est mon cas, c'est le cas d'autrui. Donc en fait, Ouais, j'ai construit mes personnages avec cette forme d'altérité-là. Ouais. Et après, voilà. Je pense qu'on se rend compte aussi peut-être qu'on est une femme et puis plus loin encore une femme racisée et puis plus loin encore une femme métisse noire et puis plus loin encore avec le regard extérieur, hein, de toute façon. Je pense que c'est beaucoup en fait même le principe de la validation aussi, hein. Moi c'est un truc qui m'a pas mal préoccupée ces derniers temps, de me dire mais à quel point cette notion-là elle dessine tout. Ouais, là, ça peut-être avec une... Non, je sais pas si ça va avec acceptation. Se faire accepter. Non, je crois que c'est vraiment... La validation, c'est vraiment quelque chose en soi, quoi. Par qui on est validé, par qui on cherche à se faire valider. C'est toujours par le regard de la domination.
Ouais,
mais
j'allais dire le regard de qui on cherche. Oui, ce qui peut aussi renvoyer à ce que vous racontiez sur vos écritures d'adolescente, en fait. Où on est déjà en train de se mettre en scène pour le regard de quelqu'un, pour plaire à quelqu'un.
D'une communauté, le poids de la... le poids d'une communauté, là c'est une communauté adolescente dans ce cas-là, mais après ouais c'est ça, et je me suis rendu compte que j'avais fait finalement le pire truc en sortant un livre, en écrivant ce livre et en cherchant à le faire publier, parce que c'était concomitant au moment où je me suis vraiment énormément posé des questions sur ça, quoi. Comment enrayer en fait cette quête de validation, cette recherche de validation. Et là, je me rends compte que en fait, j'ai mis les pieds dans un des pires systèmes, quoi. Enfin, c'est-à-dire, ce manuscrit va être, enfin, ce manuscrit va devenir un roman et la personne qui l'a écrit va devenir une romancière, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment une instance de validation hyper précise et hyper.
Ah, mais la validation, elle peut avoir une fonction réparatrice, je pense, d'une certaine façon.
C'est très piégeant.
Ouais. Je sais pas. En tout cas, je constate que c'est des questions que beaucoup de personnes assignées femmes se posent quand elles accèdent à une forme de reconnaissance, de notoriété, de validation. Pourquoi je l'ai cherché? Est-ce que je suis une bonne personne de l'avoir cherché? Est-ce que c'est vraiment... Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se posent ce genre de questions. Et c'est intéressant aussi comme on est dressé, en fait, à pas devoir en fait vouloir être validé, à pas devoir vouloir avoir une forme de pouvoir, qu'elle soit intellectuelle ou économique. Enfin, je me demande si c'est pas une forme de définition, tu vois, de ce que c'est qu'être une femme, quoi.
Oui, de toutes les manières, quand on est un mec 6-7 plans, on est prévalidé, donc en fait, je veux dire, c'est pas quelque chose. Ouais, c'est pas nécessairement une quête.
Prévalidé, c'est pas mal comme.
Ouais, il y a un truc un peu comme concept. Ça. Enfin, je veux dire. Ouais, il y a peu. Mais d'ailleurs, moi, ça me rend un peu triste. Hein. Des fois, je me dis, je pense à ces personnes et je me dis, je suis pas loin d'être un peu. Ouais, ça me fait beaucoup réfléchir en ce moment parce que je suis peinée, je crois. En fait, je suis peinée. Je suis peinée pour eux parce que je me dis, purée, il y a pas de quête. Enfin, évidemment, je le dis avec beaucoup d'humour, hein, parce que d'avoir plein de problèmes dans la vie, c'est un peu relou parfois aussi. Clairement, ça. On aura envie que les choses soient plus simples à des moments, mais je me dis, quel ennui, quoi. Des fois, je parle avec des ressortissants de cette communauté-là, qui sont nombreux dans mon entourage, par ailleurs. Et je me dis, ça a l'air un peu chiant, quoi. Il y a beaucoup de vide, en fait. Il y a beaucoup d'ennuis. Et il y a beaucoup de... D'ailleurs, c'est des gens qui sont... C'est des personnes qui sont assez traumatisées aussi, hein.
Ouais, ce que j'allais dire,
que t'es très maltraitée pendant l'enfance aussi. C'est Bell Hooks, il en parle pas mal dans À propos d'amour et tout. Et je crois qu'elle en parle encore mieux dans un livre que j'ai pas lu d'elle. Et ça m'a vachement... en fait, ça m'a permis d'acquérir une petite supériorité, en fait, de me dire, mais ah ouais, en fait, vous, c'est chaud aussi, en fait, si on le retourne d'une autre, dans un autre sens, en fait, on se rend compte que, ah ouais, mais non, en fait, c'est chaud pour vous aussi, en fait. C'est juste que nous, on s'en rend compte, vous en rendez pas compte.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est complètement ça.
C'est juste ça, quoi. Et en fait, c'est ce truc d'ignorance et tout. Ouais. Moi, en fait, quand j'ai ça fait pas très longtemps, hein, vraiment, ça fait quelques années que je me rends compte de ça. Je me dis, ah ouais, mais en fait, les pauvres, quoi. Vous êtes vraiment dans l'ignorance comme ça, et vous avez l'impression d'être du bon côté, et comme ça, ido de ligne de la tête. Mmh.
Vous ne voyez même pas la charge de trauma et d'injonction que vous-même vous avez reçue parce, que,
ouais.
parce qu'on vous offre, on vous offre toujours les portes. Et,
ouais. ouais. Et pour certaines personnes, c'est horrible parce que c'est quasiment pas guérissable, en fait. J'ai l'impression que, notamment, je pense à des personnes qui m'ont emprisé ou voilà des personnes qui ont été des dominants, des formes d'agresseurs, des gens très toxiques et tout dans ma vie, où je me dis mais purée, mais moi je peux guérir mais pas vous, en tout cas ça, la route elle est hyper longue quoi, et je me dis waouh, en vrai moi ça va franchement, dernièrement je me suis dit ça quoi, enfin ça m'a pas fait du bien mais en vrai moi ça va. Franchement vous c'est chaud quoi. Parce que j'imagine ces personnes-là, ouais, dans 10 ans, dans 20 ans, je dis, mais qu'est-ce que. Enfin, ouais, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Ces gens qui ne cherchent pas à se guérir parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un problème, quoi.
À aucun moment, il y a le retournement sur eux-mêmes qui leur permet de prendre conscience de leurs blessures internes.
Ouais, c'est ça.
Par cette question, en fait, vous arrivez exactement à l'endroit, moi, qui me semble le cœur du. Enfin. De l'échange que je veux avoir avec vous, c'est cette question du genre dans le livre. J'ai trop de trucs à dire, je ne sais pas par où commencer. Mais déjà, voilà, le geste de choisir de représenter des garçons noirs, des garçons non blancs de quartier populaire, de leur donner la parole, de montrer aussi leur intimité, leur amitié, leur vie amoureuse. C'est un geste qui est hyper politique, qui me rappelle un peu celui d'Alice Diop dans Vers la tendresse. Il y a énormément de tendresse, en fait. C'est tous ces garçons noirs et arabes, ils se donnent que de l'amitié, que du soutien, que de l'amour, que du soin. Ils cuisinent ensemble, ils bouffent ensemble, ils écoutent de la musique, ils regardent les étoiles, ils rêvent. Et ça, oui, c'est un geste, je pense, qui est très fort. Quand dans les médias, ces garçons sont représentés comme des sauvages, des voyous, et puis s'ils ont le malheur de se faire abattre par un flic, et s'il y a une bribe de casier judiciaire, on va immédiatement le ressortir. Donc ce geste-là, il est éminemment politique, c'est pas anodin, quoi.
Oui, c'est clair. Bah ouais, après moi, je crois que j'avais très envie d'être du côté des corps, et en fait, ce qui a été le plus dur, je trouve, c'est de sortir de l'écriture justificative mais nous sommes bien des humains et des humaines. Ouais. Enfin, vraiment, ouais. Ça a été le plus dur. Et à partir du moment où j'ai réussi à sortir de ça, peut-être un bras et une jambe, peut-être pas la totalité du corps, parce que franchement, le regard... les dominants ont beau ne pas être dans la pièce, ils sont quand même là, hein, c'est invisible tout ça, la plupart du temps. Donc on se sent observé et tout, mais à un moment donné je leur ai fait fermer les yeux et du coup je me suis sentie un peu plus libre de faire ce que je voulais faire. et puis c'est surtout, je pense qu'en fait à un moment donné c'est surtout qu'on tourne le dos à ce regard et pour parler aux gens à qui on a envie de parler, en fait je crois que c'est peut-être ça la mécanique. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que c'était ça que j'avais envie de faire, pas qu'il fallait justement, mais que j'avais vraiment envie de faire, du coup là je me sentais un peu plus libre de mes mouvements et voilà, et je me suis dit tiens, j'ai envie de cette histoire parce que elle m'a pas été nécessairement contée, en tout cas pas peut-être pas à l'endroit de la littérature. En tout cas j'ai beaucoup vu ces endroits-là racontés depuis des jumelles, mais moi, le safari, ça y est, quoi. C'est bon, je trouve pas ça très intéressant comme... Enfin, c'est bon, c'est très colonial, tout ça, quoi. On va pas revenir sur ça. Et du coup, j'avais envie d'être du côté des corps, ouais. Du côté des corps... quand je dis corps, c'est pas animalisé, hein. C'est vraiment des existences. Du corps et de l'esprit, ça va ensemble, et des existences, et non du côté de la justification et tout, et du côté des intimités, ce qui traverse les sentiments, les sensations corporelles, mais tout ce qui relève aussi du sentimental, tout ce qui relève de l'affect, tout ce qui relève de l'intellect et de faire se croiser un peu tout ça. Donc en gros dans le roman on a à la fois des moments d'intimité, j'ai l'impression que c'est beaucoup de sentiments, il y a de la joie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour Ouais, et en même temps, il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux rythmes. Il y a vraiment le rythme de la vie, en fait, vraiment ce truc où on se parle, on fait barbecue, on marche, on est sur une moto, et puis le moment où on est posé sur un banc public. Ça, c'est vraiment les deux rythmes dans le moment où on est posé sur un banc public et on fait un point. Et on fait un point en regardant ce qui se passe autour de nous. En, ah bah tiens, là, il y a un arbre comme ça, il y a un muret comme ça, et puis ouais. Mais bien sûr, ouais, c'était c'est clair que en fait, quand je me suis mis à écrire ce livre, je me suis dit bon bah comment on crée un contre-discours, ouais, comment on crée un contre-récit par rapport à, enfin, tous ces récits qui nous dominent, qui émanent notamment des médias, mais pas que, comme vous l'avez dit, qui criminalisent les victimes, qui ensauvagent les révoltés, les émeutiers, etc. Et du coup, je me suis dit bon bah en fait, peut-être que c'est d'aller du côté de l'anodin, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'avais envie de raconter.
Du quotidien
vraiment.
Politique, ouais. C'est vraiment ça. Oui. Voilà, moi, je trouve qu'il y a parmi les scènes les plus émouvantes du livre, c'est juste ce grand garçon qui passe dans la cuisine de sa mère qui lui dit « prends la cuillère, fais tourner le riz », et il sait précisément comment on fait pour retirer les piments du riz pour pas que ça pique trop. Et en fait, pareil, d'écrire ces scènes-là, c'est politique, en fait, rappeler que ces gamins qu'on ensauvage dans les médias, c'est des gamins qui savent préparer les plats que prépare leur mère, comme tous les enfants, en fait. Et c'est dans ces images du quotidien qu'on réinjecte de la tendresse, en fait, j'ai envie de dire, et de la douceur. Et...
Ouais, en vrai, pour le coup, ça a été vraiment, je crois, complètement inconscient, quoi. La tendresse, c'est pas prémédité du tout, quoi. Moi, ce qui était prémédité, c'est vraiment d'aller du côté de l'ordinaire, ouais. Il se passe rien. Pas qu'on s'ennuie. Parce que ça, souvent, ah ouais, l'ennui. Non, non, pour moi, ils s'ennuient pas du tout.
Hein. Ah, ils font plein de trucs.
Ils font plein de trucs. ils ont juste, ouais, voilà, la vie tranquille, quoi. Il n'y a pas de petit contrôle de police, tout ça, quoi. Enfin, vraiment, ce truc. Ouais.
Mais alors, justement, les contrôles de police, c'est là que je voulais en venir. Il y a aussi autre chose qui. Et en fait, ça, je relisais un passage hier et j'ai compris un truc, c'est que. Un autre endroit où il y a un espèce de trouble dans le genre, dans votre écriture, c'est que la façon dont vous décrivez ce harcèlement policier, vous utilisez un vocabulaire et des images qui sont le plus souvent utilisées pour parler du harcèlement que subissent les femmes, pour parler d'agression sexuelle, pour parler de viol. Et en fait, c'est tellement pertinent de représenter ces policiers qui n'ont de cesse d'arrêter de fouiller au corps ces enfants. Ces adolescents, ces jeunes hommes noirs, comme des espèces de tontons pervers qui sont complètement obsédés par leur corps. Il y a aussi cette scène des cheveux tressés d'un garçon qui est arrêté, qui passe en garde à vue et qui ressort avec les tresses défaites parce qu'on lui a tiré les cheveux. Et en fait, ouais, la comparaison entre le harcèlement policier et le harcèlement sexuel, vous l'avez faite de façon consciente
Alors déjà, un premier truc, c'est que en vérité, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça il y a pas longtemps et je trouve ça bien de le redire, c'est que effectivement, les jeunes hommes noirs arabes de quartiers dits populaires sont la cible privilégiée de la police française, mais pas que. Et il faut pas effectivement que ça invisibilise en fait tout un tas de harcèlement, notamment des personnes sans papiers, qui sont du coup des hommes mais aussi des femmes, et aussi beaucoup d'enfants, etc. Et il y a aussi, effectivement, du harcèlement de femmes, en tout cas de personnes identifiées comme femmes dans l'espace public, dans ou hors des quartiers dits populaires. Ça ne va pas prendre exactement ça va pas prendre la même forme, ça ne va pas prendre...
Ouais, travailleuse du sexe, par exemple.
Exactement. Voilà. Ouais, complètement. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est important. Moi, souvent, je me suis vraiment cantonnée à parler du sujet de mon livre, qui est ça, mais en fait, je pense vraiment que c'est important de le rappeler. En tout cas, on me l'a rappelé récemment et j'étais merci. Merci beaucoup.
Ouais, vous avez raison. Donc,
il y a ce premier truc-là. Et après, effectivement, le deuxième truc, donc, quand on parle effectivement, donc, de ces violences spécifiques qui sont des violences qui ont cette caractéristique-là, tout comme les violences faites aux personnes sans papier, d'être quotidiennes, je me suis dit, ah bah tiens, en fait, moi, ce qui va peut-être me permettre d'en parler correctement, outre le fait de les avoir observées et parfois de les avoir vécues, c'est d'être une personne agressée, en fait, tout simplement. Voilà. Concrètement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je suis, enfin, de toutes les manières, on va avoir ce point commun à un endroit. C'est que je suis, comme en fait la plupart des meufs que je connais, enfin, des personnes qui sont pas des mexis que je connais, bah, en fait, je pense qu'on approche des 100% d'agressés. Sexistement, sexuellement, etc. Donc, en fait, à un moment donné, verbalement, etc. Donc, il y a ce terreau commun, en fait. Et du coup, Ouais, je crois que c'est à partir de là, en fait, qu'il y a un vocabulaire commun qui a dû se dessiner. Et effectivement, ouais, y a le, ouais, c'est vrai, même les cheveux, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, il y a ça. Évidemment qu'il y a, pour le coup, une intense sexualisation des corps perçus comme masculins, non blancs, et spécifiquement arabes et noirs, et spécifiquement noirs. Il y a vraiment l'histoire de ces corps-là, elle va avec une sexualisation, une érotisation très malsaine, une hyper-masculinisation. Voilà, il y a des auteurs qui en parlent bien mieux que moi. Donc forcément, moi, à un moment donné, dans mes recherches, je me suis dit, mais bah, je fais dire à un personnage, mais c'est quoi cette putain d'ambiguïté ? On est à quel endroit exact ? On est à l'endroit de la violence ? On est à l'endroit du sexe ? C'est hyper bizarre, quoi. Il y a vraiment ce truc où, en fait, pour être à ce point-là sur le dos des mêmes personnes, vous êtes des obsédés. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Enfin, il y a quand même les agressions qui sont faites vis-à-vis de ces personnes-là. Elles prennent différentes formes. Donc là, récemment, il y a eu beaucoup de meurtres par balles, etc. Mais en fait, il y a des viols aussi, en fait. Il y a eu de multiples viols, en fait. Donc, d'un coup, on se dit, mais OK, il y a quand même quelque chose qui se joue à cet endroit-là, quoi.
Et c'est tellement dur à entendre. Enfin, ouais. Je pense à Théo, qui est une des victimes de viols policiers les plus connus. Enfin, ça a été hyper difficile à faire dire, en fait, médiatiquement, qu'il a été violé par une matraque d'un policier, et violé dans la définition légale du terme.
Ouais.
Et c'est probablement un cas parmi...
Bah oui.
Enfin, voilà, le point,
et puis c'est ça, des humiliations. Je veux dire, il y a ce geste qui est assez fréquent, de faire baisser les pantalons, par exemple.
Ouais.
Ça, c'est un truc... c'est pareil. Enfin, ça dit quelque chose de très étrange, quoi.
Et je voulais justement notamment parler de d'un autre endroit où il y a quelque chose de super intéressant qui se joue sur le genre, c'est que les garçons du livre, ils sont un peu sorcières.
Ouais.
Astor, le personnage principal, le narrateur plutôt, il cueille des plantes, il connaît le nom des plantes, il sait donner le nom scientifique des arbres qui poussent sur la place. Il a des souvenirs de son enfance où il ramassait des sphaignes et des fougères dans la forêt près de chez lui. Et ça, c'est hyper, encore une fois, assez transgressif, je trouve, de représenter rien que de présenter des garçons qui ramassent des fleurs et qui a des brassées de verdure dans les bras. Je trouve cette image hyper forte. Et puis, il y a le personnage de Neil, qui, lui, est carrément la sorcière, quoi. Il est dans un sous-sol, il est chaudronnier, et dans son chaudron, il prépare une potion explosive, une potion qui a aussi une vocation un peu à réparer, à venger. Est-ce que Neil, c'est une sorcière ?
Oui, Neil, c'est une sorcière. Et d'ailleurs, c'est vrai que... non, mais c'est logique. Je ne m'étais jamais dit qu'Astor, c'était une sorcière aussi, alors que c'est complètement une sorcière. Et surtout, d'autant plus qu'il me semble, mais je suis vraiment quasiment maintenant sûre de cette théorie, c'est que Astor et Neil...
C'est la même personne.
C'est la même personne.
Ah, je me suis posé la question, j'étais là. Clairement. Neil est dans la tête d'Astor un peu.
Clairement. Ouais. Je pense que c'est vraiment juste... Astor, à un moment donné, il est frappé par le deuil, donc ça devient compliqué pour lui d'avancer. C'est un peu l'incarnation d'un texte qui s'appelle « L'émeutier et la sorcière » d'Olivier Marbeuf, qui m'a vachement intéressée sur la question du hors-champ, notamment sur ce qu'on a fait dire aux émeutiers de 2005 politiquement, c'est cette absence de politisation supposée. C'est-à-dire, ces gens-là brûlent des choses parce qu'ils n'ont pas de conscience politique. Ils ne savent pas faire autrement. Alors qu'ils devraient syndiquer. Ça, c'était les discours à gauche et puis les discours à droite. On les connaît, on ne va pas les répéter.
Ouais.
Mais il y a vraiment ce truc en mode le syndicat, ça, c'est la bonne forme de contestation politique. Et puis tout le reste, c'est de la grosse merde. Pardon. Donc on a vidé vraiment de sens politique en fait ces manifestations qui pourtant disent quand même quelque chose, elles s'attaquent pas à n'importe quoi. Résumer ça à des poubelles et des voitures, c'est quand même alors qu'en fait t'as quand même de la consommation, des lieux du capital, tout ça. Mais bon, c'est pas politique.
Non, mais c'est évidemment. Par hasard.
c'est ça, complètement hasard, quoi. Hallucinant. Et c'est répété exactement la même chose en juin et juillet dernier. Mais bon, c'est pas politique, y a pas de galère. Et du coup, en fait, voilà, moi c'était une manière aussi d'aller prononcer justement quelque chose de très politique. Mais ça, c'est très pensé, en fait. Donc à travers le personnage de sorcière qui évidemment est complètement fictionnel et très, très dessiné et abusé. C'est, il est abusé ce personnage et en même temps j'avais vraiment envie de dire ça. Mais en vérité tout, c'est très pensé et pas forcément très pensé dans le sens où on a fait un budget prévisionnel, on a fait des réunions, c'est pas ça l'idée. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a une intention qui est très très forte. Et même si elle est spontanée parfois, elle n'en est pas moins très très pleine en fait. Et... quand on va faire sortir, et là j'emprunte encore une fois, je crois qu'il n'y a pas d'intervention que j'ai faite sans parler de Malika Mansouri, mais j'emprunte ces mots, quand on fait sortir le brasier de soi, c'est pas, voilà, ça, c'est pour éviter qu'il nous consume. Hein. Donc il y a déjà ce geste-là de survie qui est intensément politique à mon sens. C'est survivre, c'est déjà s'accorder du soin et être à l'endroit de le faire avec d'autres, c'est être à l'endroit de la connexion. Et donc, il n'y a pas politique sans connexion. Hein. Enfin, donc, du coup, ouais, aller réaliser ce geste intime-là à plusieurs, il y a quand même quelque chose d'éminemment politique, déjà pour commencer. Puis après, évidemment, la destination, là, on peut lire différentes choses, mais ouais.
Faire du feu, ça fait du bien.
Faire du feu, ça fait du bien.
C'est une phrase de vous, c'est une tribune que vous avez publiée dans Mediapart au moment des mouvements sur la réforme des retraites, qui était vachement, vachement forte. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a quelques jours, en fait, j'étais à Beaubourg. Il y avait une conférence de Judith Butler avec Elsa Dorlin et Ouria Bentouami. Et voilà, Judith Butler, c'est un cycle Judith Butler à Beaubourg. Ça va durer plusieurs mois, donc je donne la ref aux gens parce que c'est assez incroyable. Qui réfléchit beaucoup sur la valeur de la vie et quelles sont les vies qui valent la peine d'être vécues. Et évidemment, la conversation, elle a beaucoup tourné autour des violences policières. Et Ouria Bentouami, elle a employer cette expression d'après-vie de la race. Ce que je trouve complètement... ça m'a fait vraiment exploser le cerveau. Où elle parle, en fait, de la force militante qui émerge dans le deuil qui vient des violences racistes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui... Ça m'a tout de suite, en fait... J'ai votre livre qui m'a pété au cerveau quand j'ai entendu cette expression. Il y a cette phrase qui suit la mort de Samy. Je viens de spoiler le livre, je suis désolée. Les premiers instants qui suivent la nuit ou le jour durant lequel commence un deuil ont les couleurs qui n'apparaissent qu'à celles et ceux qui pleurent leur mort. Et vraiment, cette phrase m'est remontée en entendant cette expression. Et il y a aussi autre chose qui m'est remontée, c'est les reproches qu'il était fait à la maman de Naël de trop sourire dans les manifestations qu'ont suivi la mort de son fils. Enfin, je crois que quiconque a perdu un proche est sidéré par cette stupidité, parce qu'évidemment, quand on est frappé par le deuil, on sourit en fait beaucoup.
Surtout quand on est observé, quoi.
Et surtout quand on est observé. Et surtout quand on est complètement dissocié et qu'on est trop choqué pour faire autre chose. Donc voilà, je voulais juste parler de cette joie, en fait, qui paradoxalement naît de la mort et du deuil et qui est très forte, en fait, dans votre livre, je trouve.
Ouais. C'est clair qu'à un certain niveau, je pense, quand on est femme, quand on est une personne racisée, quand on est plus largement, en fait, quand on est minorisée, je pense que ça sera plus juste de le dire comme ça. Il y a ce truc où on parlait des fantômes tout à l'heure. En fait, on les choisit pas. Je crois que je l'ai déjà dit. Et la citation que je mets en exergue du poème de Lisette Lombé. Je trouve qu'elle dit vraiment ça. Enfin, moi, elle m'a vraiment, ce poème m'a vraiment frappée, parce que je me suis dit, ok, ça dit tout de ce qu'on charrie avec soi, malgré soi, quand on est une personne minorisée et quand on est une personne noire, tout ce qu'on charrie des personnes mortes, en fait, avec soi. C'est assez puissant, je trouve, comment elle, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai interprété ces mots. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est un constat hyper pesant, en fait. Et du coup, comment ça l'allège et tout? Je sais pas, en fait. Mais peut-être que, ouais, faire de l'art et en proposer, c'est peut-être quelque chose. C'est peut-être une piste, en tout cas, pour ce... Moi, en tout cas, c'est sûr qu'avec le livre, j'avais envie d'aller aussi à l'endroit de l'apaisement. C'est un livre avec beaucoup de colère à des endroits, mais j'avais pas envie d'être là en mode gna-gna-gna. Enfin, j'avais envie d'être gna-gna-gna, mais quand même... proposer quelque chose quand même, pas être juste à l'endroit de, de l'agacement, de l'énervement et je crois encore moins, et d'ailleurs ça c'est vraiment un truc auquel je réfléchis aussi beaucoup en ce moment, c'est la question du sarcasme. Je crois que j'en peux plus. Je crois que c'est vraiment un truc, le ton sarcastique, le côté hyper... qui va souvent avec une forme de cynisme. Même voilà, des camarades ou des personnes dont j'aime beaucoup le travail, ça, qui emploient ce ton, je commence à avoir vachement de mal avec ça, à me dire, mais en fait, je crois que j'ai vraiment trop besoin de joie, de douceur. Je pense qu'on peut vraiment dire les choses différemment et ça ne veut pas du tout dire qu'on a perdu, bien au contraire. Ça veut dire qu'on est plutôt à l'endroit du soin, les uns vis-à-vis... Parce que c'est quand même ça, l'idée c'est de s'apporter des choses les unes vis-à-vis des autres. Et du coup, toujours se le dire avec ce petit ton sarcastique, moi, ça m'agresse maintenant, quoi. J'ai vraiment ce truc, mais arrête, en fait. Enfin, c'est pas drôle, en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie de rire de ça. J'ai pas envie, en fait. Ça me... Non. Là, j'ai vu beaucoup des trucs passer, ouais, sur les violences policières, sur les machins. On fait du sarcasme. Mais non, en fait. Non. Franchement, et moi, j'adore l'humour, hein. Mais pas là, quoi. Enfin, pas de cette manière, en fait. Pas avec le sarcasme. Et du coup, ouais, voilà, moi, je crois que peut-être même avant de me poser la question du sarcasme, j'étais un peu à cet endroit-là de se dire, bah, ok, peut-être que là, on va aller chercher la transe, en fait. On va aller chercher peut-être cet endroit là où le collectif, il peut nous aider à transcender des émotions négatives, justement. Donc là, j'ai utilisé le motif de la danse. Et après, si on tire un peu les ficelles, le motif du carnaval, donc voilà, la para, etc. Enfin, Denis sont costumés, on comprend pas pourquoi. Enfin, bah, y a un truc un peu méta ordinaire. Hein. Y a plein de scènes comme ça qui sont un peu, qui correspondent, qui sont un peu irréelles en fait, mais voilà, qui permettent de dire à un moment donné, mais là, en fait, on est tellement en train de danser que on est en train de décoller collectivement, quoi. Et puis, en fait, éventuellement, ils vont décoller vraiment. Il y a des choses qui vont vraiment décoller à la fin, mais mais voilà, c'est un peu ce truc là de se dire ok, là, à un moment donné, en fait, la violence, elle est telle que quoi faire, quoi. Et du coup, dans un travail artistique, je me suis dit, bah, peut-être que ça allait regarder aussi quelles sont les formes de résistance les plus belles, les plus magnifiques qui soient. Et en fait, c'est le défilé, le cortège, la danse, le brasier. Denis, je mets une voiture comme ça. Personne n'a vraiment fait gaffe. Mais une voiture comme ça qui flambe. Alors qu'il n'y en a pas, hein, vraiment, dans le livre, il n'y en a pas. J'ai soigneusement évité de parler de ça. Il y a quand même une voiture qui flambe. Et je dis, ouais, c'est le monsieur carnaval. Et voilà, quoi. Bon, c'est des petits trucs comme ça que je dissémine en mode pour... À qui veut peut voir, quoi. Il y a un truc un peu comme ça.
Ouais, ouais, et ça finit littéralement en feu d'artifice, comme une belle fête. Diati Diallo, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous?
Ouais, c'est un... Ouais, carrément. Ouais, j'ai de la chance.
Et ça évoque quoi pour vous, la poudre?
Bah là...
on est un petit peu influencés, là.
La révolution. Clairement.
Merci beaucoup, Diati Diallo.
Merci, Laurette Bastide.
Merci à Diati Diallo d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Laurette Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabaron. À la prise de son aujourd'hui, Clément Sicula. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.